face. On peut être insatisfait vis-à-vis de choses matérielles, vis-à-vis de situations, vis-à-vis de personnes, y compris dans l'Église. On peut être insatisfait vis-à-vis de notre relation avec Dieu, vis-à-vis de notre façon de relationner à lui. Il y a tellement un champ potentiel vaste de l'insatisfaction en nous. Il est vaste, ce champ. On peut être extrêmement insatisfait, un petit peu, mais de beaucoup de choses. L'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Vous connaissez ça, hein? Vous connaissez. Pourquoi? Mais parce que quand on regarde sur le côté, là, on se dit, waouh, c'est tout vert. Et puis quand on se retrouve dessus, on voit toute la terre qu'il y a entre les brins d'herbe, tout simplement. Mais c'est une réalité. On a toujours l'impression que les autres sont mieux que nous. On a toujours l'impression que les autres ont plus. On a toujours l'impression que si on n'avait pas exactement comme ça, mais si on avait à côté, ce serait mieux. Ce serait mieux. Et donc, il y a une forme, même si on n'en a pas conscience, il y a une espèce de forme d'insatisfaction qui est là, qui est dans notre cœur et qui est permanente et qui est pas juste. Elle n'est pas juste. Et c'est pour ça que je parle de forteresse. Et c'est pour ça que je dis que ce matin, c'est quand même un sujet qui n'est pas facile. Parce qu'il est extrêmement discret dans notre cœur, mais il est profondément ancré en nous. Et donc, on va l'arracher ce matin, on va le faire sortir. À quel moment est-ce qu'on commence à parler d'insatisfaction? À quel moment est-ce que cette insatisfaction, elle se manifeste dans nos vies? Est-ce que ça commence quand on râle à propos de tout ou à propos de tous? Est-ce que c'est quand on trimballe un espèce de petit nuage noir autour de nous partout où on va et qu'on crée une mauvaise atmosphère autour de nous? Est-ce que c'est quand on est de mauvaise humeur? Ben oui, dans tout ça, effectivement. Mais j'ai envie de dire ce matin que l'insatisfaction, elle trouve son origine encore plus tôt. Elle commence simplement, dans la non-reconnaissance vis-à-vis de ce qu'on a. C'est simplement ça. Que sont les ténèbres? Il n'y a pas de générateur de ténèbres. Il y a juste une absence de lumière. Qu'est-ce que l'insatisfaction? L'absence de reconnaissance. C'est le même schéma, exactement le même. Et donc j'aimerais vraiment dire ça ce matin, que l'insatisfaction dans nos cœurs, elle commence simplement par la non-reconnaissance vis-à-vis de ce qu'on a. Et le fait de ne pas être reconnaissant au Père implique, et là c'est important que vous l'entendiez, ça implique que je ne reconnais pas que Dieu mérite ma louange à ce moment-là, parce que je ne suis pas satisfait de quelque chose. Le fait de ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce que j'ai aujourd'hui implique que je ne reconnais pas que dans cette situation, sur ce point-là précisément, Dieu mérite ma louange par rapport à ça. Que Dieu n'est pas suffisant par le fait d'être simplement lui-même et que quelque part j'ai besoin de plus que lui pour être satisfait. Une situation financière difficile, est-ce que j'arrive à être reconnaissant de ça? Ou est-ce que je m'inquiète? Est-ce que j'estime que Dieu n'est pas suffisant dans cette situation? Et est-ce que j'ai besoin de plus? C'est dur hein, ce que je dis ce matin, hein, et je ne suis pas en train de dire qu'on doit fermer les yeux sur les difficultés de la vie, hein, attention. Mais c'est intéressant de s'arrêter là-dessus et de réaliser en fait. Est-ce que, combien de fois dans ma vie finalement, j'ai besoin de plus que Dieu? Combien de fois j'ai besoin de plus que lui dans ma vie? Alors qu'il le dit, je suis suffisant. Et c'est pourtant une réalité, on doit gérer la frustration, il y a des moments où on ne voit pas les choses arriver, je parle de situations financières difficiles, c'est une réalité, il y a des situations émotionnelles qui sont difficiles aussi, on vit des épreuves, Jésus en a vécu, Paul en a vécu, ces deux personnes que je vais citer ce matin. Il y a des moments où on a l'impression qu'on n'a pas de raison de remercier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des moments où clairement, on a l'impression qu'on n'a pas de raison de dire merci, merci Seigneur. Et pourtant, dans le royaume, il y a des principes essentiels qu'on doit mettre en application, et on va en pointer ce matin deux, et dans lesquels on devrait mettre beaucoup plus de foi. Beaucoup plus notre foi. Le premier principe que je voudrais aborder, c'est ce que Dieu a dit à Paul et que Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens, « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Voilà. Paul était en train de parler qu'il avait lutté et demandé à Dieu plusieurs fois que Dieu lui ôte une épreuve qui était dans son corps, une maladie. « Ma grâce te suffit. » Et ça nous rappelle une chose, c'est qu'on doit se souvenir que Dieu, il mérite d'être reconnu pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il fait pour nous en premier. Mais Dieu mérite d'être reconnu pour qui il est, en dehors de ses bénédictions. Dieu mérite notre louange et notre gloire bien avant le fait qu'il nous bénisse. Mais il est bon, alors il bénit. Mais ce n'est pas parce qu'il bénit qu'il mérite ma louange ou ma reconnaissance. C'est parce qu'il est lui. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et sa grâce nous suffit. Il est suffisant pour nous. Je laisse du temps pour que ça pénètre. Il est suffisant pour nous. Il est suffisant. C'est tellement un renversement de culture que de dire que Dieu est suffisant et que quelque part on n'a pas besoin de plus. Mais c'est une réalité de son royaume. Ma grâce te suffit. Une deuxième réalité qui est dans ce royaume, c'est David, ce qu'il disait dans Psaume 37 au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. C'est ce qui est dit aussi dans le Nouveau Testament. C'est un verset qui est semblable. Fais de l'Éternel tes délices. C'est pas juste reconnais un peu l'Éternel, accepte-le dans ta vie ou mets-le sur une étagère comme étant « oui, je reconnais que c'est une vérité ». Non, fais-en tes délices. De quoi on fait les délices dans nos vies ? De quoi on se délecte ? Le mot « se délecter », c'est pas le plat de pâtes du dimanche soir. Hein. On est français quand même, pour la plupart ici. Hein ? Ceci dit, je veux pas vexer les Italiens ici. Effectivement, les plats de pâtes sont excellents. Il y en a. Non, je parlais vraiment des pâtes cuites sans sel trop longtemps, Marie. Vous m'avez tous compris ? Fais de l'Éternel tes délices. Il y a de nouveau là un sens d'extrême. Comme Paul le disait tout à l'heure, hein, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, reconnaissez l'Éternel, soyez reconnaissant à l'Éternel dans ces choses-là. Et donc, fais de l'Éternel tes délices. Apprenons à faire de l'Éternel notre délice en premier et à nous réjouir, en fait, de qui il est. Ce verset, il ne nous dit pas « fais des bénédictions de l'Éternel tes délices ». Il dit « fais de l'Éternel, lui, en premier, sa personne, qui il est, en tant que roi, en tant que souverain éternel, fais de lui tes délices, pas ce qu'il fait pour toi. » Réjouis-toi simplement de qui il est, du fait qu'il existe, qu'il règne sur toute chose, et dans sa bonté, il nous donnera ce que notre cœur désire. Pourquoi aussi ? Mais parce que plus, je dis, enfin c'est un verset qui boucle sur lui-même. Si l'Éternel est mon délice, qu'est-ce que mon cœur désire ? L'Éternel. Il ne faut pas tomber, il ne faut pas comprendre non plus qu'on joue au jackpot avec Dieu et que finalement on va essayer de marchander et que plus on va lui consacrer du temps et plus on va lui donner de l'importance et plus on va en faire un moment de délice du dimanche matin par exemple ou d'un autre moment dans notre vie, que derrière ça il y a forcément des bénédictions qui vont en découler telles que nous les voulons aujourd'hui, modelées par cette culture du manque et cette culture du « j'ai pas assez ». Ce n'est pas ce que dit ce verset. Ce verset, il nous dit que quand notre cœur tout entier désespère après le Seigneur et en fait sa délectation, Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Et ce que notre cœur désire, c'est ça ensuite, c'est sa présence au milieu de tout ce qu'on a, au milieu de tout ce qu'on est, au milieu de toutes nos situations. Et quand il donne sa présence, il donne la paix, il donne la joie, il donne la satiété, il rassasie. Et donc on doit vraiment adopter la perspective du royaume pour comprendre les passages qu'on vient de lire. Paul, il le dit, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain, il va jusque-là. Il va jusqu'à dire finalement la perspective de cette vie terrestre sur laquelle je suis. Mais Seigneur, si tu pouvais me reprendre maintenant, reprends-moi maintenant parce que je sais que c'est vachement mieux ce qui m'attend que ce que j'ai aujourd'hui. Et donc il était dans cette perspective du royaume. Et pas dans cette perspective du royaume des ténèbres, de cette terre qui est aujourd'hui pervertie et qui attend que Jésus revienne pour rétablir toute chose. Paul désespérait après ce royaume plein et entier quand Jésus reviendra nous chercher. Et donc, la mort m'est un gain. Si je meurs, ok, Seigneur, j'aurai fait dans cette vie-là tout ce que je peux. J'aurai annoncé ton évangile au maximum. J'aurai fait du bien autour de moi. Voilà la générosité dont parlait Aline ce matin. Je vis une vie généreuse, je vis une vie de contentement, je vis une vie rassasiée de toi, Seigneur. Et si je meurs, eh bien, il n'y a aucun problème, parce que c'est 10 fois mieux après. C'est 10 fois mieux après, et ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. La plus grande perspective pour notre vie et notre plus grande espérance, elle n'est pas ici-bas, elle est dans la vie éternelle qui nous est acquise par Jésus-Christ. Et justement, notre culture, ce dont je parlais, nous le fait oublier, ça. On a tendance à l'oublier, on a tendance à s'attacher à du confort, on a tendance à s'attacher à des choses qui sont ici. Notre culture détermine comme étant des standards importants. Il faut que tu aies une bonne maison, il faut que tu aies une bonne situation, il faut que tu ne sois pas dans l'insécurité de quoi que ce soit, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière. Mais quand on voit comment les apôtres ont fait dans la Bible, comment ils ont été de lieu en lieu, de village en village, comment ils ont compté sur la générosité des communautés simplement pour avancer, pour annoncer l'évangile en faisant une priorité, ça nous donne aussi une leçon par rapport à comment nous menons nos vies aujourd'hui. Et attention, je ne pars pas en croisade contre le capitalisme et je ne pars pas en croisade contre la société de consommation ce matin. Il est bon que nous ayons du confort. Et la Bible parle de toutes ces terres, de tous ces biens que le Seigneur nous donne et qui nous donne en héritage et dont on doit jouir. Il est dit que Moïse est mort rassasié de jour. Rassasié de jour, il y a une dimension là-dedans de joie, de satiété, de plénitude. C'était bon, et c'est bon de vivre sur cette terre, ce serait vachement dommage quand même, c'est lui qui l'a faite. Par contre, nous sommes, comme dans l'excellent message de Pierre, dans le déjà et le pas encore. Eh bien oui, on attend encore que Jésus revienne et rétablisse toute chose. Oui, on en est encore là. Et donc on s'attend à être comblé en toute chose dans cette vie, mais c'est pas exactement ça. Et on doit se souvenir, ça c'est important aussi, on doit se souvenir que la bénédiction c'est une grâce et que c'est pas un dû. Et je vais le redire parce que c'est important, la bénédiction est une grâce, elle n'est pas un dû. Dieu ne nous doit pas sa bénédiction. Par rapport au fait que nous ayons accepté Jésus-Christ ou que nous offrions notre vie en sacrifice ou que nous passions X heures à le prier ou à lire sa parole, tout ce que nous pouvons dire ou faire ne conditionne pas sa bénédiction, le fait qu'il nous bénisse. Ça voudrait dire que nous méritons, ça voudrait dire que nous forçons sa main. Dieu est bon, il est bon par essence et donc c'est par grâce qu'il donne. C'est par grâce qu'il bénit. Et ce n'est pas un dû, et c'est quelque chose d'important. Alors, nos enfants, ce n'est pas un modèle que je vous donne là, hein, parce que chacun fait comme il veut vraiment. Nos enfants, on ne leur a jamais fait croire au Père Noël. Alors, on s'est amusé à leur faire croire au Saint-Nicolas, c'était marrant, ils ne nous ont jamais vraiment cru, mais c'était rigolo. Mais pas au Père Noël. C'est-à-dire qu'à Noël, on savait qui offrait les cadeaux, et on les a toujours encouragés à pouvoir aller dire merci à la personne qui avait offert un cadeau. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas un dû. Ces cadeaux qui venaient là n'étaient pas un dû à Noël. C'était des bénédictions choisies, voulues. Des gens ont voulu leur faire plaisir. Nous, les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, marraines. Et donc l'importance par rapport à ce cadeau-là, de pouvoir en retour dire merci. Merci. Alors je ne dis pas que ça a développé particulièrement une culture de la reconnaissance chez nous. On a encore des progrès à faire, je trouve. Mais voyez l'intention qu'il y avait derrière. Hein, et je ne donne pas ça non plus comme un modèle qu'il ne faut pas faire croire au Père Noël, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà ce qu'il y avait derrière, de dire la bénédiction est une grâce. Elle n'est pas un dû, ni pour les enfants, ni pour nous. Donc, en fait, peu importe la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on devrait pouvoir dire comme Paul dans Philippiens, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie, quelle que soit la situation. Et c'est pour ça que je parlais de situation financière difficile tout à l'heure. Oui, c'est des situations où on a l'impression que tout se renferme sur nous. Il y a des fois voilà, une insécurité qui est forte et on peut la comprendre émotionnellement, on peut la comprendre humainement. Mais selon la perspective du royaume, Paul est en train de nous dire que dans toute situation, il a été content. Y compris dans la famine, y compris dans l'humiliation, y compris dans la disette. C'est fort quand même, c'est fort. Et il ne nous dit pas, Paul, de fermer les yeux sur ce qui est difficile dans nos vies, sur les épreuves, sur le manque, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans ces situations, notre regard, il ne doit pas être focalisé sur ce qui nous manque, il ne doit pas être focalisé sur la difficulté, mais il doit être focalisé par « je puis tout par celui qui me fortifie ». Nos yeux doivent se lever. Et dans les épreuves de nos vies, dans les choses qui sont difficiles, dans ces temps où il nous semble qu'on manque par rapport à ce qu'on voudrait, d'être vrai avec Dieu. D'être vrai avec Dieu et de lever les yeux vers lui. Parce que c'est de lui que dépend la bénédiction. C'est de lui que vient la bénédiction. Mes yeux, regarde, se lèvent vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, comme disait David dans son psaume. Oui, levons les yeux dans ces moments. Soyons clairs par rapport au fait que oui, il y a des épreuves dans nos vies. Ce n'est pas de la méthode couée de « j'ai pas d'épreuve, j'ai pas d'épreuve, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît ». C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a des temps difficiles, mais mes yeux, Seigneur, ils vont pas rester focalisés sur ces choses qui sont compliquées dans ma vie. Ces yeux, je vais les lever vers toi parce que c'est de toi que me vient mon secours, c'est de toi que me vient l'espérance. Et je m'attends à ce que tu agisses dans ces situations. Et quand bien même tu n'agirais pas, Seigneur, merci d'être ce rocher inébranlable dans ma vie. C'est pas toujours évident, mais c'est une réalité à laquelle on est appelé. Et de la même manière, de l'autre côté, l'abondance dans nos vies, l'abondance de biens, l'abondance émotionnelle, l'abondance financière, le fait d'avoir plein de choses autour de nous, ça doit aussi nous faire lever les yeux sur le fait que toutes ces choses-là sont une grâce accordée par Dieu et non un dû. Et nos yeux doivent de la même manière non pas être tournés vers tout ce que nous avons, mais doivent se lever vers lui en permanence. Pour que, comme Paul, que je sois dans la famine ou que je sois dans l'abondance, dans ces deux situations-là, Seigneur, mon cœur est reconnaissant envers toi pour ce que tu es. Vraiment, vraiment. Le terme reconnaissance, c'est le terme grec eucharisteo, qui veut dire action de grâce, remercier, être reconnaissant. Et ce terme-là, il contient la racine charis, qui est la grâce. C'est aussi pour ça que je dis que les bénédictions sont une grâce, elles ne sont pas un dû. Et la grâce charis, elle contient aussi le sens de joie. Et c'est intéressant de voir que dans ce terme qui désigne finalement notre action de grâce, dans ce terme de la reconnaissance, eh bien là-dedans, il y a de la joie. Et dans le fait d'être reconnaissant aujourd'hui, dans le fait de développer cette culture de « je choisis, Seigneur, d'être reconnaissant alors que je ne devrais pas l'être selon la pensée de ce monde, mais je choisis de l'être », eh bien là-dedans, il y a une joie qui permet de traverser l'épreuve. Là-dedans, il y a une joie. Dans la reconnaissance, il y a une joie. Et la Bible dit « la joie du Seigneur est notre force. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Seigneur, fortifie-nous par ta joie dans tout ce que nous traversons. Et ça vient au travers de la reconnaissance. Il y a dans le fait de rendre grâce cette source de joie qui nous a fermis sur le roc de Jésus-Christ. Il y a trois versets que je voudrais vous laisser dans Éphésiens 5, 20, 1 Thessaloniciens pardon, et Hébreux. Éphésiens dit « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Un peu plus loin dans Thessaloniciens, Paul dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et puis dans Hébreux, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Le fruit de lèvres qui confessent son nom, ça veut dire le fruit de lèvres qui parle en accord avec les paroles de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste qu'on confesse un Jésus extérieur, c'est que nous nous plaçons en lui pour confesser qui lui est dans chacune de nos situations. Et donc dans tous ces passages, on retrouve Eucharistéo, On retrouve cette dimension de la reconnaissance, on retrouve cette dimension de la grâce, mais on la retrouve avec ce contexte de continuellement, toujours, sans cesse, en toutes circonstances. La Bible, elle n'est pas équivoque sur les moments où on doit être reconnaissant. C'est tout le temps. Tout le temps, en tout temps, du matin au soir, quelle que soit la situation, et qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Il n'y a pas d'équivoque. La Bible n'ouvre pas le champ en disant « Il y a des situations particulièrement et précises sur lesquelles vous pouvez ne pas être reconnaissant. » Non. Je ne dis pas que nous devons danser sur toutes les situations et que nous devons être tout le temps joyeux. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Par contre, de reconnaître qu'en toutes circonstances que nous traversons, Dieu reste Dieu. Et pour pouvoir tenir dans cette affirmation, il y a une autre clé à avoir en tête qui vient nourrir cette reconnaissance de nos cœurs, c'est le fait que Dieu pourvoit. Ayons confiance dans le fait que Dieu pourvoit. Dans Matthieu, Jésus nous dit « Qui parmi vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste vous donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Et puis dans Romains, Paul dit « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Comment ? Paul dit « C'est même pas possible que ce soit autrement. » Que le Dieu qui a livré son propre Fils puisse aussi nous donner toutes choses. Et dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et donc notre reconnaissance, elle s'appuie et elle implique la confiance dans le fait que Dieu y pourvoit chaque jour pour ce qu'il donne. Il pourvoit, jour après jour. Jéhovah Jireh, c'est un des noms dans lesquels il se présente dans la parole. Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. C'est son essence de pourvoir. Il a pourvu à la création du monde et il pourvoit encore pour chacune de nos vies aujourd'hui. Et c'est une réalité. Et donc on doit asseoir notre confiance dans ce fait qu'il pourvoit. On doit dire à notre âme, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoit. Et ça veut dire aussi qu'on doit reconnaître que ce qu'il donne aujourd'hui est suffisant. S'il pourvoit, c'est que c'est suffisant. Et on peut demander encore. Oui, Seigneur, donne encore. Mais en même temps, je suis reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui, parce que c'est suffisant. Dieu ne ment pas. Et Dieu ne se trompe pas. Et des fois, on voudrait décider à sa place. Des fois, on voudrait dire, Seigneur, tu t'es un petit peu trompé quand même, parce que franchement, la situation, elle ne va pas trop, trop bien. Et moi, j'aurais fait autrement. Moi, j'aurais donné autrement. Mais bien souvent, ce que le Seigneur attend, c'est une épreuve de foi. C'est simplement qu'on soit en capacité de dire, Seigneur, je te fais confiance parce que Jéhovah Jireh. Je te fais confiance parce que Jéhovah Jireh. Parce que je connais, parce que ton nom, c'est le fait que tu pourvois dans ma vie. Et donc j'ai confiance pour ça. Et je m'attends à toi. Dans Proverbes, il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sur ton intelligence, sur tes pensées à toi. Reconnais-le, reconnais ton Dieu, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà ce que l'Éternel fait quand nous disons « Je reconnais que tu es le chef suprême dans toute situation de ma vie. » Lui aplanit nos sentiers. Et donc il y a une dimension de soumission derrière et c'est une promesse de bénédiction parce que Dieu est immensément bon et quand on se met sous son aile, il y a de la bénédiction. Comme une grâce. Je ne sais pas si vous connaissez Pollyanna, c'est un roman américain qui a été écrit par, je l'ai noté pour la culture, ceux qui veulent noter, Eleanor H. Porter, publié en 1913 aux États-Unis, édition... Non, je n'ai pas la... Et dans ce livre-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Pollyanna, elle développe un jeu. Alors, ce n'est pas une histoire réelle, hein. Elle développe un jeu qui s'appelle le jeu du contentement. Il y en a quelques-uns qui doivent connaître ça ici. Et le jeu de Pollyanna... C'est absolument renversant dans ce livre. Beaucoup l'ont lu ou pas ? Finalement, très peu l'ont lu. Alors, je vous invite à lire Pollyanna, si jamais vous ne l'avez pas lu. C'est assez court, c'est pour les enfants. Lisez-le avec vos enfants aussi, c'est assez intéressant, on l'a fait, et ça donne quelques clés. Et Pollyanna, elle développe ce jeu qui est le jeu du contentement. C'est-à-dire qu'en toute situation, et elle traverse des épreuves qui sont les unes derrière les autres, on est là en lisant ces pages et on se dit « mais quelle injustice ! Mais c'est pas juste ! Mais c'est pas juste ! Mais moi je me révolterai ! Et à quel moment elle va se rebeller ? Et à quel moment elle va faire entendre son droit ? Et à quel moment elle va dire « il y en a marre ! » Et à quel moment elle va se lever et elle va tous leur planter un pain ? » Mais non ! Pollyanna, elle développe le jeu du contentement. En toute situation, elle cherche à voir quel est le positif de cette situation. Et elle en trouve toujours. Et ça impacte toutes ses relations avec les gens qui sont autour d'elle, ça impacte toutes les situations qui viennent les unes après les autres, qui font que les portes s'ouvrent pour elle les unes après les autres et que le bon arrive dans sa vie. Et puis surtout, 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 on trouve une petite fille dans ce livre-là qui est assise sur une joie incompréhensible. Elle est bien au travers de tout ce qu'elle traverse, simplement parce qu'elle choisit de reconnaître. Elle choisit d'être reconnaissante pour ce qu'elle a, plutôt que de focaliser sur ce qui lui manquerait dans toutes ces situations. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et la Bible, elle nous dit la même chose dans Philippiens, toujours 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et c'est une clé. C'est pas de faire connaître à Dieu simplement nos besoins par des prières et des supplications. Point. Cette petite virgule et ce bout de phrase qui est rattaché là, il est super important. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et alors, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, elle vient de ce que l'on sait, que celui à qui on exprime nos besoins saura quelle excellente réponse y apporter. Et c'est ça, Dieu pourvoit. C'est ça, se placer sous le fait que Dieu pourvoit dans nos vies. J'ai confiance, Seigneur, que ce que tu vas faire est excellent. Et puis, ce passage-là aussi, il faut le comprendre dans ce sens-là, avec cette attitude de reconnaissance, c'est qu'on ne demande pas parce que Dieu ne sait pas. Ce n'est pas ce que ce passage nous dit. Il ne nous dit pas « Dieu a besoin de comprendre de quoi vous avez besoin parce qu'il ne le savait pas. » Et donc, si vous ne priez pas, il ne saura pas ce dont vous avez besoin. Non. Ce passage-là, c'est pour dire à nous-mêmes que c'est de lui que nous dépendons. C'est pour nous rappeler que par rapport à une situation et puis par rapport à des besoins, c'est vers Dieu que je me tourne. Et c'est Dieu que je supplie. Et c'est à Dieu que je demande. Et ce n'est pas juste mes propres efforts qui vont faire que les choses vont aller mieux. Bien sûr, je vais me mettre en marche. Je ne vais pas attendre sur mon canapé que ma situation financière s'améliore sans chercher du travail. C'est une évidence. Mais je fais connaître mes besoins à Dieu et je m'attends à ce que lui réponde. Et en faisant ça, je me dis à moi-même, je dépends de lui, je dépends de sa bénédiction, je dépends du fait qu'il m'accorde cette grâce de me bénir et que ce n'est pas le fruit de mes efforts uniquement dans la vie. Combien on entend cette chanson aux enterrements ? I did it my way. I did it my way. Voilà, le fruit de toute une vie. J'ai mené ma vie comme je la voulais. C'est moi qui l'ai construite. Je me suis bâti un empire. J'ai acquis de mes mains, par mon travail, tout ce que j'ai aujourd'hui. Non. Moi, je voudrais pouvoir dire, j'ai fait connaître à Dieu mes besoins et mes supplications, et lui m'a donné sa paix, lui m'a donné sa joie, lui m'a béni, et je reconnais sa grâce dans toute ma vie, je reconnais ses bénédictions multipliées jour après jour durant toute ma vie. Amen. Amen. J'aimerais juste, on arrive bientôt à la fin de ce message, parler de l'inquiétude et juste dire que c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Quand on parle de reconnaissance, ça veut dire que dans la non-reconnaissance, il y a une forme d'inquiétude qui s'exprime. Et l'inquiétude, elle n'est pas anodine. La Bible, elle en parle comme étant le fruit de l'allégeance à un autre maître que Dieu, le fruit de l'allégeance à Mammon et donc d'un autre royaume. Et quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle du fait d'être transporté et changé de royaume, d'être sous le règne de Dieu et non plus sous le règne d'autres dieux, eh bien l'inquiétude n'a pas de place dans ce royaume. Et le fait de nous inquiéter, par rapport à des situations. Et là, dans mon propos, je ne culpabilise personne, mais j'aimerais juste démontrer une tactique de l'ennemi aujourd'hui, c'est que dans cette position d'inquiétude, nous laissons Mammon dominer sur nous. Nous servons un autre Dieu, nous faisons allégeance à un autre Dieu. Parce que la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu, etc., etc. Dans ce long passage, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ça vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour. Suffit sa peine, et derrière, c'est Dieu pourvoit au travers de toute chose. Et ce passage, il commence par « Nul ne peut servir deux maîtres ». Ce n'est pas possible. Ce qui est posé à cet endroit-là, c'est que ce n'est pas possible de servir Dieu et de s'inquiéter. Ou du moins, que l'inquiétude fasse partie du plan de Dieu pour nos vies. C'est ça, plus exactement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu choisisse que nous puissions être placés dans une position où nous sommes inquiets dans nos vies. Et donc, quand on sent cette inquiétude-là, je nous encourage à la chasser, je nous encourage à la refuser, je nous encourage à la rejeter et à proclamer avec reconnaissance, « Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin que tu agisses. Je supplie. Merci Seigneur pour qui tu es pour moi aujourd'hui, parce que j'ai. Merci pour ce que j'ai aujourd'hui. Mais je refuse de m'inquiéter Seigneur. Je me refuse parce que c'est le fruit d'une allégeance à Mammon et ça je ne la veux pas dans nos vies. » Et donc, ce changement de royaume, il implique un changement de lunettes sur nos vies, un changement de foi. En quoi est-ce que je crois ? Il est question de foi dans cette reconnaissance, elle ne vient pas de nulle part. En quoi est-ce que je crois ? Est-ce que je crois et est-ce que je me laisse modeler par le fait que Dieu est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit dans ma vie pour chacune des situations, qu'il est suffisant, suffisant pour tout ce que j'ai aujourd'hui ? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'il faudrait plus que ça ? Et donc on doit apprendre à remercier Dieu pour des choses concrètes, pour des caractéristiques de Dieu. C'est ce qu'on a fait, on a commencé ce culte comme ça, en disant qui Dieu est. C'est tellement, tellement nourrissant de parler de qui Dieu est et de le faire ensemble, en communauté, de pouvoir nous exhorter les uns les autres à nous souvenir « Ah mais oui, c'est vrai !» Quand j'ai entendu les uns et les autres prier ce matin, je me disais « Ah oui, Seigneur, c'est vrai !»« Ah oui, c'est vrai !»« Ah oui, c'est vrai !»« Ah oui, c'est vrai !» Et combien ça nourrit ma foi de me rappeler d'un seul coup tout ce que Dieu est. Merci Seigneur pour ça. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans nos vies. De reconnaître concrètement qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, c'est quelque chose qui est important. Et puis, de remercier avec foi pour ce qu'il va faire. Seigneur, merci. Je sais que tu es tellement celui qui pourvoit, je sais que tu es tellement celui qui est bon et qui bénit que je peux déjà te remercier aujourd'hui pour la bénédiction que je n'ai pas encore maintenant, mais que je sais que j'aurai demain. Parce que tu es bon, Seigneur. Et avec foi, je veux te remercier. Je ne veux pas juste réclamer. Je veux remercier, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Parce que je sais que tu vas le faire. Amen ? Vous êtes d'accord ? Eh bien, j'aimerais vous laisser en conclusion de ce message quelque chose. C'est que la reconnaissance, elle précède le miracle. Et voilà pourquoi je crois que c'est important de parler de reconnaissance. Voilà pourquoi je crois que c'est important de développer une culture de reconnaissance dans nos vies. La reconnaissance précède la multiplication. Et j'aimerais qu'on prenne deux passages de la multiplication. On ne va pas les lire en entier. Et une première multiplication qui est dans Jean 6, 5, 13. Ouais, voilà, merci. Juste ce passage où effectivement il y a 5000 hommes qui doivent être nourris. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons qui sont amenés à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait ? Alors les disciples, bien sûr, sont en train de se dire « On n'a pas assez d'argent pour acheter, comment on va faire ? Il faut les renvoyer, on ne peut pas les nourrir, etc. » Et Jésus prend les pains, remercie Dieu et les distribue aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent lorsqu'ils furent rassasiés. Lorsqu'ils furent rassasiés. Jésus remercie. Il y a un miracle de multiplication jusqu'à ce que tout le monde soit rassasié. Vous voyez la puissance de la reconnaissance ? Ce n'est pas juste le miracle de l'autorité de Jésus dans ce contexte-là. Ça commence par « Père, je te rends grâce pour ce que nous avons. Merci pour ces pains que tu as donnés. Merci, parce que grâce à ça, tu vas multiplier. Tu es Jéhovah Jiré. » Et il y a une deuxième multiplication dans l'évangile, qui est dans Matthieu 15. Et on a la même chose où Jésus, à un moment donné, alors pareil, les disciples ne savent pas comment ils vont faire, etc. Et puis, Jésus fait asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains et les poissons, c'était un peu différent cette fois-ci, c'était toujours du pain et du poisson quand même. Il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Jésus remercie, il multiplie jusqu'à ce que tous soient rassasiés. Et on peut se dire, ok, il y avait un manque, évident, c'était juste pas possible. Humainement, on voudrait organiser les choses, on pourrait se dire, ouais, les responsables, c'est vraiment pas possible, ils ont vraiment rien organisé, c'est une horreur. Il manque de tout, on n'est pas, voilà. Combien de fois on pourrait l'entendre, hein ? Combien de fois on voit des gens se retourner contre les organisateurs d'événements, de choses comme ça, pour n'importe quoi. Jésus n'a pas regardé au peu, il n'a pas regardé au manque évident, mais comme une grâce, ce qu'il y avait déjà. Et ça, c'est une clé. Il a considéré comme une grâce qu'il y avait déjà, et la multiplication, elle est venue. Et voilà pourquoi je dis que si dans nos vies, si dans notre Église, nous développons cette culture de merci Seigneur pour la grâce de ce qu'il y a aujourd'hui, il y a une clé de multiplication. Dieu va multiplier au milieu de nous. Dieu va multiplier en joie, en bénédiction, en nombre, en annonce de l'évangile, en guérison, en puissance des dons, tellement de choses. On pourrait dire que c'est uniquement dans la parole, mais George Müller a vécu la même chose avec son orphelinat en Allemagne. Il a été un modèle, ce gars-là, de foi incroyable. Et puis il y a plusieurs histoires comme ça, mais il y en a une notamment, parce que ça s'est fait plein de fois dans sa vie, il y en a une où, eh bien, clairement, avec ses enfants, je ne sais plus combien ils étaient, ils n'avaient pas pour le petit déjeuner, ils n'avaient rien, zéro dans les frigos, que dalle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il assoit tout le monde à table, comme s'ils allaient prendre le repas. Il assoit tout le monde à table et il remercie Dieu. Merci Seigneur pour ce petit déjeuner de ce matin. Merci pour ce que nous avons, Seigneur. La joie de pouvoir être là, vivant, vêtu, etc. Et quand ils ont commencé à prier, toc, 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 à la porte. Un camion de lait qui s'était renversé, qui avait besoin, plutôt que de jeter tout le lait, d'amener toutes les bouteilles qui étaient encore pleines à quelque chose, à quelque part. Et puis ben, l'orphelinat était là, donc c'était l'occasion rêvée, espérée. Et donc des bouteilles de lait par je ne sais plus combien sont arrivées, le lait pour le petit déjeuner. Et puis un tout petit peu après, toc, 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 le boulanger, j'ai été réveillé cette nuit et il me semble que le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je fabrique du pain pour vous. Et donc j'ai fabriqué du pain et voilà, je vous l'amène. Et ce gars-là a vécu tout au long de sa vie des miracles comme ça, juste parce qu'il savait être reconnaissant. Et que derrière la reconnaissance, il y a de la multiplication. Et moi, je m'attends à ça. Je m'attends à ce qu'il y ait une multiplication dans nos vies. Je m'attends à ce que ce Eucharistéo, cette grâce, amène de la joie dans notre assemblée, amène de la joie dans nos vies et fasse multiplier au milieu de nous des choses et qu'elles viennent contrer justement cette insatisfaction, cette culture du pas assez, cette culture du l'herbe d'à côté, elle est plus verte. Non, on n'en veut plus de tout ça. On n'en veut pas de tout ça. Seigneur, on veut juste être reconnaissant pour ce que nous avons considéré que ce sont des grâces. Et Eucharistéo, il a donné en français le terme Eucharistie qui désigne la scène, le pain et le vin. Pourquoi ? Eh bien pour nous souvenir que nous devons rendre grâce du fait que Dieu est donné en premier. Dieu, il a donné son Fils, il a donné Jésus, il l'a livré. Et c'est la même chose que dans la multiplication des pains. Avant d'être livré, le soir où il fut livré, Jésus prit les pains, les rompit, rendit grâce, avant de livrer son propre corps à lui, et multiplier le salut pour tous les hommes. Quel miracle incroyable ! Mais ce soir-là, où Jésus savait ce qu'il attendait, où derrière à Gethsémané, on sait qu'il a perlé des gouttes de sang, tellement il était dans une angoisse terrible de ce qui allait se produire, Jésus a rendu grâce. Merci Seigneur pour ce que nous avons. Et je partage. Et donc voilà ce qu'il y a derrière l'Eucharistie, nous souvenir de cette grâce incroyable que Dieu donne, que Dieu donne, que Dieu donne et que Dieu donne encore, encore, encore et encore. Et que nous n'avons, pouvons pas compter les sujets de reconnaissance dans nos vies. Nous ne pouvons pas les compter. Ce n'est pas possible. Quand on commence à les chercher, on ne s'arrête plus. Le début est difficile, mais on ne s'arrête plus à un moment donné. Véro avait fait un tableau à la maison qui s'appelait « Les 100 merci ». Et donc, on était encouragés avec des petits numéros à mettre « merci pour quelque chose de concret, merci pour ça, merci pour ça ». Effectivement, ce n'est pas évident au départ, mais ça vient tout de suite. Et les enfants se sont régalés à remplir ce tableau-là. On avait un tableau avec 100 merci qui était écrit dans tous les sens, de toutes les écritures. Et ça développe une culture de « je suis conscient de la grâce qui m'est accordée ». Et en étant conscient de cette grâce, j'amène une multiplication dans ma vie, une multiplication de la joie. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ensemble ce pain et ce vin dans cette dimension-là, en nous engageant peut-être à reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est suffisant et qu'il mérite notre louange pour qui il est en dehors de tout ce qu'il pourrait faire. C'est vraiment un premier engagement que j'aimerais vous laisser, de reconnaître ça. Derrière, de nous soumettre à sa volonté parfaite pour nos vies, à vivre en dépendance à lui et non en dépendance à nos efforts. Seigneur, c'est toi qui pourvois. Ce n'est pas David Jireh, ce n'est pas Pierre Jireh, ce n'est pas n'importe qui Jireh, c'est Jéhovah Jireh. C'est toi qui pourvois, Seigneur. Donc je me soumets à toi et je vis en dépendance à toi. Troisième engagement pour moi, ce serait de développer personnellement et dans notre communauté un caractère reconnaissant en toutes circonstances. Soyons reconnaissants envers le Père, mais aussi les uns envers les autres. Et attendons-nous que cette culture de connaissance, elle précède la multiplication. Voilà. Engageons-nous dans une dimension où on s'attend à ce que Dieu, au travers de ça, multiplie. Amen ? Vous êtes d'accord ? Donc, profitons de ce temps de pain et de vin où on peut personnellement s'engager par rapport à ces choses-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent distribuer le pain et le vin ? 4 personnes. Vous voulez les mélos ? Et 2 autres, super, merci. Voilà, et puis qu'on laisse poser ces choses-là dans notre cœur. Et puis j'ai envie de prier. Seigneur.